Vous êtes bien sur les ondes de Radio Royan Vercors. Il est l'heure de Bella Vanille.
Je me suis réveillée un matin de bonheur. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi, toi, toi. Je me suis réveillée, j'ai frémi de peur, car j'ai trouvé l'envahisseur qui voulait gratter à fleur de rocher. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi, 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 prêt à massacrer hibou orchidée pour remplir son propre panier. Écho de combine, délire de tracteur. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi, 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 sous les tirs de mine des hommes sans cœur, chantant le mont Vanni qui pleure. Les crânes je sécherai, des larmes de poussière. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi, 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 je te défendrai d'une furie guerrière. Nous saurons protéger la terre.
Bonjour et bienvenue dans Belle la Vanille. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission qui vous est proposée par l'association Protégeons le Mont Vanille Royan Vercors. En voici le sommaire. Séverine nous présentera son billet intitulé « J'ai pas le moral ». Ensuite, Pierrick accueillera par téléphone notre invité Jean-Yves Baudin, membre actif de Vercors Citoyens dans les commissions écoute et communication. Il sera question de leur actualité. Cette interview sera suivie d'un intermède musical avec Asaf Avidan, qui est un auteur-compositeur-interprète israélien avec son titre « My Old Pain ». Enfin, le billet de mood portera sur l'agenda des événements et des luttes du territoire. Eh bien, voici le temps de la chronique de Séverine, à qui je laisse la parole.
Bonjour les amis. Une fois n'est pas coutume, mais là je vous l'avoue, j'ai eu du mal à écrire ce billet. Le climat ambiant, les informations politiques, météorologiques, climatiques ont eu raison de ma bonne humeur. Alors bah, je peux vous le dire, j'ai pas le moral. Voilà. Je me suis demandé si j'étais la seule concernée. Et au cas où ce soit pas le cas, bah, est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des idées, des actions à mettre en œuvre pour aller mieux? Alors je suis tombée sur un article publié sur le site des Nations Unies qui est intitulé « Angoisse climatique, deuil écologique, les impacts du climat sur la santé mentale ». Je vous encourage à aller le lire pour avoir tous les détails. Moi ici, je vais juste donner les principales idées. Des recherches menées par le docteur Okamoto et ses collègues ont mis en évidence un lien entre le climat et la santé mentale. Aujourd'hui, les États consacrent environ 2% de leur budget à la santé mentale. Et franchement, cette part, elle va devoir augmenter hein, dans les années à venir. Pour parler d'ailleurs de ces nouveaux impacts, de nouveaux termes ont dû être inventés comme le deuil écologique. Alors c'est quoi? C'est être témoin de la dégradation de l'environnement, de le vivre indirectement ou de vivre indirectement une crise climatique. Mais il y a aussi un autre terme que j'ai découvert aussi, hein, la solastalgie, qui décrit les sentiments nostalgiques des personnes dont les terres natales où les environnements familiers changent rapidement et qui, du coup, ont perdu leur sentiment d'appartenance. Ces problèmes de santé mentale peuvent apparaître justement en ce moment, comme par exemple en ce moment, avec des liens sur des événements aigus, les tempêtes, les inondations ou les feux de forêt, ou lors de changements à plus long terme de type sécheresse. On peut se demander comment nos jeunes vivent cette situation et finalement, il s'avère quand même que 60% se déclarent très inquiet, voire extrêmement inquiet, selon une étude publiée en 2021. Et ça a des impacts, notamment sur les choix de vie, et particulièrement sur celui d'avoir ou non des enfants. Alors, avec ça, je fais quoi? Je continue à me morfondre? J'ai continué à chercher des actions à mettre en place pour aller mieux. Du coup, je vous les partage. La première, une des premières en tout cas, c'est de vivre dans l'instant présent, puisque c'est le seul sur lequel on peut agir. Se tenir à distance des médias qui peuvent nous mettre le moral dans les chaussettes, s'en tenir à écouter les infos une ou deux fois par jour et passer le reste de notre temps à faire autre chose. À faire des choses, par exemple, qu'on apprécie, qui nous font du bien. Une promenade avec Médor, un coucher de soleil qu'on va photographier, écouter de la musique, poser des mots sur un cahier. S'engager également dans un collectif qui a du sens pour nous, qui rejoint nos valeurs. Et adopter, si ce n'était pas déjà fait, des gestes simples mais accessibles qui nous permettent de sentir qu'on fait au mieux. Alors là, pour terminer, je vous propose de passer la parole à Pierrick et à notre invité Jean-Yves Baudin qui, chaque jour, j'en suis absolument certaine, fait du mieux qu'il peut pour voir les changements importants pour lui.
Caillou dans ma chaussure. Caillou dans ma chaussure.
Merci Séverine. La technique, Alain me dit que nous sommes en direct avec notre invité au téléphone. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Pierrick.
Alors, enchanté de t'avoir au téléphone. C'est pas la coutume à Bella Vanille, on a d'habitude les invités en direct, en studio. Mais pour cette fois-ci, on va faire de cette manière-là. J'espère que ce sera pas trop déconcertant pour nos auditeurs. Alors, Jean-Yves, je le rappelle, tu es membre de deux commissions dans Vercors Citoyen. La commission écoute et la commission communication. Et on avait quelques petites questions à vous poser, Vercors Citoyen, parce qu'il se trouve que vous avez une actualité assez, on va dire, atypique, et on aurait voulu développer ce sujet, mais peut-être avant, tu aurais la gentillesse de nous refaire rapidement un rappel du projet sur les différentes mobilisations et le projet et ses avancées à l'heure actuelle.
Absolument, Pierrick. Donc nous avons plusieurs casseroles sur le feu, comme nous le disons, dans notre actualité. La première d'entre elles concerne toujours le projet immobilier de résidence hôtelière de grand luxe à Villard-de-Lans. Donc projet qui est porté par Tony Parker, qui s'appelle l'UTNS, unité touristique nouvelle spéciale parce qu'elle a une ampleur très importante, hein, plus de 17 000 mètres carrés. Donc ça, c'est le premier dossier qui suit son cours et sur lequel nous avons eu dès le mois de d'octobre-novembre l'occasion de porter un recours au tribunal administratif, considérant qu'il y avait un certain nombre d'opérations que nous jugions non conformes à l'intérêt public. Le deuxième grand dossier sur lequel nous travaillons beaucoup est lié au renouvellement du contrat de délégation de service public de la station de ski de Villard-de-Lans. Donc le domaine skiable est en fait sur deux communes, Villard et Corançon, et en 2026, le contrat sur la partie Villard va arriver à expiration, et donc la commune a lancé un processus avec des ateliers de concertation pour préparer le cahier des charges et faire un appel donc à candidature pour prendre donc l'exploitation de la station de ski côté Villard-de-Lans. Et puis un troisième dossier aussi sur lequel nous avons travaillé avant et pendant l'été, qui concerne des modifications du plan d'urbanisme, le PLUH habitation, qui a fait la une de la presse parce que il se trouve que la communauté de communes a apparemment eu des sorties de route sur un certain nombre d'aspects, et le commissaire enquêteur a remis un dossier très accusateur qui a fait donc la une de la presse, et on pourra en reparler. À côté de ces trois grands dossiers, nous menons des écoutes citoyennes depuis le mois d'avril, et je pense qu'on aura aussi l'occasion de parler de ça, parce que là on est plus dans la construction, dans la projection, dans l'imaginaire, dans ce que pourrait être le territoire du Vercors voilà, d'ici quelques décennies. Et pour cela, on a une approche d'écoute très très modeste, très humble, qui consiste à aller sur le terrain, à mettre en place un processus de délibération publique pour nourrir le débat sur l'avenir du territoire.
Alors, nous, précisément, à Bella Vanille, c'est ce qu'on voulait rappeler. On a eu l'occasion de discuter avec déjà certains autres militants et membres de Vercors Citoyens sur la question des écoutes. On avait reçu également Loïs Haber, le président, pour avoir une petite explication de texte sur les projets de Tony Parker, Ananda Resort, si je dis pas de bêtises. Et c'est peut-être par ce petit bout-là que je voudrais qu'on démarre. Le projet, il fait 17 000 mètres carrés. De mémoire, c'est quelque chose comme 900 couchages qui sont imaginés. Et cette UTNS, aujourd'hui, elle en est où? C'est quoi l'état de l'UTNS, donc l'unité touristique nouvelle spéciale qui devrait voir le jour si le projet va à terme?
Alors, le statut actuel, alors, c'est un projet qui fait 99 appartements, 700 lits, 17 000 m2, avec donc une résidence de tourisme très haut de gamme, avec un pôle indoor incluant des murs d'escalade connectés, ce qui est tout à fait, je dirais, inspirant, juste en face des montagnes, 2 500 m2 de commerce. Alors, il y a eu une approche de concertation préalable de la part de la mairie de Villard-de-Lans, du 18 mai au 28 juin. Ça n'est pas obligatoire et la mairie s'est gossée de la faire, sous un format qui était quand même très précontraint, où on était plus dans de la communication verticale qu'une réelle concertation. Il y a eu une réunion publique le 13 juin, assez peu convivial en réalité, hein. Les interventions du public étaient toutes, je dirais, raisonnables, ont fait l'objet de réponses assez sèches des élus. Il y a eu dans ce processus de concertation donc la possibilité de publier des avis pour ou contre le projet de l'UTNF. Au total, il y a eu plus de 170 avis qui ont été envoyés par voie électronique. 51 sont des avis positifs, représentent 10 pages, et 120 sont négatifs, donc la grande majorité, et sont très largement documentés dans plus de 130 pages. Nous avions, nous, Vercors Citoyens, remonté nos remarques en complément, et nous considérons que cette démarche de concertation, en fait, elle n'est pas très sincère, quoi. C'est plus de l'information, de la communication, qu'une réelle écoute des attentes des habitants qui sont dans leur majorité inquiets de ce projet complètement hors sol qui ne correspond pas du tout aux caractéristiques du territoire.
Alors, si je peux me permettre, Jean-Yves, dans un livre de Monsieur Graber qui s'appelle Inutilité publique, il y a effectivement cette notion que les projets, quand ils arrivent sur les territoires, suivent un espèce de cursus administratif prédéterminé qui a pour but de valider des cases dans un dossier administratif pour in fine pouvoir dire aux porteurs de projet, vous avez coché toutes les cases, donc votre projet est valide. Souvent, les gens pensent que ce processus a pour fonction de consulter, de faire de la démocratie participative et éventuellement d'influer sur le projet, son devenir ou même sa simple réalisation. Et en fait, ce que vous constatez sur le terrain, c'est que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on concerte de façon contrôlée, on concerte de façon mesurée, on concerte, mais en aucun cas on est prêt à élargir le champ de l'analyse pour éventuellement remettre en question ce type de projet.
Absolument. Le projet est clairement acté dans l'esprit des élus. Les réponses de la commune aux 120 avis documentés négatifs se résument à une page et demie très laconique et qui se moque un peu du monde. Clairement, pour nous, le combat continue. Le combat avait été engagé fin d'année dernière car nous avions déposé un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif sur l'échange de parcelles jugées iniques parce qu'il spoliait les biens publics en mettant à disposition de Tony Parker le parking qui est le joyau de la station. Donc là, le recours est toujours en cours, mais malheureusement, les procédures administratives sont très longues. Et puis, la communauté de communes a donc voté à une petite majorité, parce que pour la première fois dans la communauté de communes, finalement, une dizaine d'élus se sont manifestés pour s'opposer ou s'abstenir sur le dossier. Dossier qui a été remis donc au préfet. Le préfet va rendre son avis pour pouvoir faire avancer la procédure. Donc, début 2025, on aura un retour normalement du préfet. Et bien entendu, pour nous, nous avons un certain nombre d'actions pour freiner, je dirais, et ralentir et si possible annuler ce projet.
Ok, on entend que la question des échanges de parcelles, donc je ne sais pas si les amis auditeurs se souviennent, mais effectivement pour que le projet puisse avoir lieu, il y avait un espèce de deal entre le porteur de projet et la mairie pour faire des échanges de surface, de sorte à optimiser le projet du point de vue du porteur de projet sans se poser trop la question de l'intérêt public réel de cet échange de parcelles. Et du coup, c'est là où vous êtes intervenu, ça connecte directement avec l'actualité sur le PLUIH, qui est donc le plan local d'urbanisme intercommunautaire orienté sur l'habitat, qui lui a fait l'objet de, si je ne dis pas de bêtises, d'un rapport d'un commissaire enquêteur. Quelles sont en fait les conclusions et les points de vigilance pointés par ce commissaire enquêteur?
Alors effectivement, le commissaire enquêteur, M. Vaugien, est intervenu du 8 juin au 9 juillet pour conduire l'enquête publique. Il a émis un dossier relativement à charge. Hein. Nous, on l'a rencontré et il nous a dit qu'il avait rarement vu un dossier dans un contexte pareil, avec énormément d'anomalies, d'abus divers et variés. Bon, la communauté de communes a contesté ce rapport en disant qu'il était outrancier et qu'il sortait du cadre légal. Le tribunal administratif, le président du tribunal administratif a répondu à la communauté de communes qu'elle reconnaissait effectivement un certain nombre de sorties de route du commissaire enquêteur, mais que sur le fond, il y avait suffisamment de mobiles sérieux pour maintenir, je dirais, les conclusions principales de ce rapport. Donc la communauté de communes, je crois, a décidé de se saisir, alors avec de l'argent public, hein, elle va mobiliser un certain nombre d'avocats. Je ne sais pas si c'est tout à fait acceptable d'un point de vue strictement intérêt public, mais elle va essayer de porter un nouveau recours. Alors, les points principaux que nous avons nous contestés côté Vercors citoyens, c'est d'une part porter beaucoup de confusion auprès du public sur le fait de mener cette enquête publique en même temps que la concertation de l'UTNS. Donc quand on se baladait devant les bâtiments publics, la mairie, la communauté de communes, on voyait des affiches jaunes du même format placardées aux portes, parlant d'une part de l'enquête publique du PLUIH et d'autre part de la concertation préalable de l'UTNS. Donc pour un public qui n'est pas averti, c'est vraiment quelque chose qui porte à confusion et qui permet de noyer le poisson.
Alors, si je puis me permettre, à Bellavani, lorsqu'on a eu à faire face au projet de carrière à Saint-Nazaire-en-Royans, on a vu que effectivement ces dossiers, qui sont souvent des dossiers volumineux, avec un jargon qui leur est propre, avec des conséquences qui sont importantes, nécessitaient du temps et de la clarté pour que l'expertise citoyenne puisse s'exprimer. Et effectivement, il peut paraître un petit peu curieux de conduire deux procédures d'une telle épaisseur, j'ai envie de dire, en parallèle, parce que ça ne permet pas l'expertise citoyenne. Ça ne permet pas, en tout cas ça la complique quant à une juste compréhension et une bonne analyse des enjeux et des conséquences de ce type de projet, que ce soit pour l'UTNS, l'unité touristique nouvelle spéciale, ou le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunautaire Habitat.
Absolument. Donc on comprend bien
le problème, ouais.
Je peux vous dire que notre groupe de travail juridique n'a pas chômé fin juin et pendant l'été pour analyser effectivement des dossiers qui font plus de 800 pages et remonter effectivement toutes les anomalies. Le deuxième point qui nous a choqué, c'est que l'UTNS est absent de cette modification du PLUIH, alors qu'elle représente une évolution significative de celui-ci. Donc on a le sentiment qu'on saucissonne pour mettre de l'opacité et éviter d'avoir une vision globale sur les enjeux du territoire. Et c'est ce que le commissaire enquêteur a mentionné effectivement de façon très claire, en disant qu'il était absolument anormal que cette partie UTNS ne figure pas dans la modification numéro 2 du PLUIH.
C'est sûr qu'un équipement touristique nouveau qui représente 17 000 m², 700 lits, 2500 m² de commerce, si c'est pas intégré à un plan local d'urbanisme intercommunautaire sur l'habitat, ça induit que ce plan, c'est pas un faux plan, mais c'est un plan qui est pas tout à fait réaliste.
Absolument.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments au travers de l'enquête publique qui a eu lieu sur le PLUIH qui ont conduit Vercors Citoyen à pointer des aspects particuliers, des enjeux ou des réflexions qui sont conduites sur le territoire?
Alors, je vous ai mentionné les deux points qui pour nous étaient effectivement des problèmes et sur lesquels nous avons fait remonter notre position au commissaire enquêteur. Et maintenant, je crois que la justice va faire son travail par rapport à ce rapport et par rapport à la position de la communauté de communes, la CCMV. Donc nous, je dirais qu'on laisse la justice opérer sur ce dossier, puis on verra un petit peu les résultats d'ici quelques mois. Le troisième dossier sur lequel nous sommes impliqués, c'est celui de la délégation de services publics. Et là, nous avons fait une réunion publique. Vous savez que dans notre tradition Vercors Citoyen, nous faisons beaucoup de réunions publiques pour faire de la pédagogie, pour expliquer les enjeux des différents dossiers. Et fin septembre, le 26, nous avons fait une réunion pour présenter notre vision de cette délégation de services publics, là où la mairie, je dirais, a une approche très conservatrice, regardant vers le passé, en fait, hein, toujours tournée vers le ski, avec très peu de diversification, seulement 10% des investissements dédiés à la transition. Nous avons proposé un scénario réaliste et innovant, qui a été le fruit de nombreuses consultations, qui a été le fruit de beaucoup de co-construction avec des professionnels. Et notre vision, c'est qu'on peut faire vivre le domaine à l'année, dès aujourd'hui, en synergie avec les territoires, sans baser toute l'activité sur la neige, et avec une ambition, je dirais, qui permettra d'avoir entre 250 et 280 jours d'activité pour créer une économie stable avec des emplois à temps plein. Très très loin, je dirais, de la vision que la commune a partagée lors de différents ateliers de concertation, de réunions publiques. Alors là, la partie n'est pas perdue. On sent qu'il y a une certaine ouverture de la mairie à peut-être se rapprocher un petit peu et essayer d'influencer sur le cahier des charges qui devrait être soumis en novembre, donc c'est très très bientôt, aux différents prestataires qui répondront donc à cet appel d'offres.
Parce que la DSP, donc la délégation de services publics qui concerne le renouvellement de la gestion de la station de ski, est-ce que dans cette DSP, il y a des notions comme celle du dérèglement climatique dont parlait Séverine dans son billet, qui ont des impacts concrets hein, sur la santé des gens? Est-ce que ces notions-là sont abordées? Est-ce que les adaptations qui sont proposées, elles ont été faites en tenant compte aussi des abords? Parce que manifestement, la station de ski... sur le plateau, bah, ça influe aussi sur tous les contreforts du Vercors. Nous, dans le Royan, on est indirectement concernés, mais on a tout un flux, tout un trafic, il y a toute une économie qui est organisée autour également. Est-ce que ces choses-là ont été, on va dire, questionnées, ou est-ce que, au contraire, on est sur, en fait, la reconduite d'une délégation de services publics telle qu'elle avait été créée précédemment?
On est clairement sur la reconduite de la délégation telle qu'elle avait été gérée jusqu'à présent. Il n'y a que 10% des investissements qui sont dédiés à la transition vers un nouveau modèle. Ça veut dire que tout le modèle économique de cette DSP repose encore sur le ski.
90% donc.
De jours, voilà, 90%. Et on sait que, bien entendu, les jours de ski... D'autre part, le modèle économique est-il soutenable dans la mesure où les coûts de l'énergie pour produire la neige artificielle ont doublé sur les 6 dernières années? Donc il y a un problème de pérennité économique de ce modèle, sachant que une délégation de service public, c'est une délégation d'un service public, et in fine, si ça se passe mal pour le délégataire, c'est la commune qui se prendra tout ça sur les pieds, et donc nous, les citoyens, qui devront éponger les dettes. Donc on a un double enjeu, en fait, c'est de préparer dès aujourd'hui une transition vertueuse, et deuxièmement, éviter une catastrophe économique.
Alors, typiquement dans la préparation Vercors Citoyens, moi je vous trouve assez fort parce que non seulement vous avez des groupes de travail qui sont capables de décortiquer tous les enjeux juridiques sur les différents pavés qu'on jette sur la place publique, à savoir l'UTNS, l'unité touristique nouvelle, le spécial, la délégation de services publics et le PLUI, mais en plus vous avez une petite équipe qui travaille sur la réalisation des écoutes. On avait reçu ici Barnabé Fourgous, je crois, de mémoire, qui nous avait présenté ce projet, qui était un projet en fait qui consiste à un petit peu faire le tour des popotes, hein, plutôt que de suivre des casseroles, de faire le tour des popotes et de savoir comment les gens pensent, comment les gens habitent et se projettent dans le Vercors de demain. Et ce serait sympa si, en tant que membre de cette commission, on pouvait avoir un petit état d'avancement sur ces écoutes. Qu'est-ce que ça met en évidence? Pourquoi la mairie, elle reste finalement un petit peu avec une oreille attentive sur des développements possibles, et en quoi cette incarnation nouvelle du citoyen sur les projets du Vercors, eh ben ça phosphore, en quoi ça produit quelque chose.
Oui, absolument. C'est un projet qui donne le moral, hein, par rapport à l'introduction de cette chronique. C'est-à-dire que les rencontres que l'on fait, on a à peu près une douzaine d'écoutants actifs, je dirais, qui vont à la rencontre de jusqu'à présent 80 citoyens sur les trois territoires, donc les quatre montagnes, le Royan et le Vercors Sud. Et nous passons entre une et deux heures à écouter ce que chacun ressent individuellement par rapport à ce territoire incroyablement beau et varié et riche en termes de ressources de toute nature. Et dans une deuxième partie, on fait un pas de côté et on écoute la personne sur la vision qu'il a du Vercors, du commun, c'est-à-dire ce qui nous rapproche, ce qui nous rassemble, ce qui fait du lien, quelles sont les ressources que l'on partage ou que l'on pourrait partager, qu'est-ce qu'il faut accélérer, qu'est-ce qu'il faut au contraire ralentir. Et à l'issue de cela, on a donc une mine d'idées. On doit avoir plus de 600 idées aujourd'hui qui sont consolidées avec des professeurs de l'UGA, puisqu'on a un appui universitaire en termes de méthodologie.
L'UGA étant l'université Grenoble-Alpes, c'est ça ?
Alpes, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Et donc, on rassemble les idées par thème. Alors, c'est l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, le paysage, l'habitat, le travail, le tourisme, le lien social, etc. Et donc, pour information, le mercredi 13 novembre, on va passer la journée à la Jolie Colo à Autran, de 9h à 17h, et tous ceux qui sont intéressés peuvent se joindre à nous, parce qu'on va travailler avec les universitaires justement sur la mise en commun des résultats par thème et la préparation des restitutions que l'on prévoit fin janvier, début février de l'année prochaine. Donc on organisera une réunion dans chacun des trois territoires, dans le Royan, dans le Vercors Sud et dans les quatre montagnes. On invitera les personnes qui ont été écoutées et puis tous les citoyens qui sont intéressés pour débattre, pour écouter et pour débattre. Et puis, par la suite, on organisera donc d'autres sessions sous forme probablement artistique pour, je dirais, avoir aussi un aspect émotionnel et dans le plus le subtil que le cartésien, on va dire. Et puis, nous organiserons enfin des assises citoyennes, c'est-à-dire qu'on essaiera de proposer des plans, des espèces de planning long terme sur les différents axes que l'on pourra après soumettre aux élus s'ils sont intéressés.
Eh bien Jean-Yves, c'est super que tu nous fasses ce point. Je rappelle la clause de rendez-vous que tu proposes aux auditeurs de Radio Royan-Vercors s'ils souhaitent se défaire de cette morosité ambiante et rejoindre des collectifs qui sont sur des dynamiques positives et rentrer dans l'action plutôt que d'être passif par rapport à tout ce qui se passe. C'est donc le 13 novembre, j'ai noté, à la Jolie Colo à Autran. J'ai oublié les horaires, mais je te laisserai les répéter. Je crois que c'est 9h, 17h ou quelque chose comme ça.
C'est ça, 9h, 17h.
C'est absolument, je pense, une façon de répondre aux enjeux et puis au ressenti général, être à l'action Enfin, pour moi, j'ai pour devise de dire laisser faire n'est pas une solution. Donc voilà, je trouve ça très motivant. Et avec les assises qui vont suivre derrière, ça vous donnera l'occasion, Vercors Citoyen, de reprendre la parole à ce micro. En tout cas, je le souhaite parce que je trouve ça très riche, très inspirant et très motivant. Et puis, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, je vais te remercier. On va faire une petite pause musicale. Je laisse à Maud le soin de nous rejoindre pour présenter son billet après la petite chanson de Asaf Avidan, My Old Pen. Merci encore, Jean-Yves.
Merci, au revoir.
I'm in love again with my old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. Every town the weeping willow dances in the breeze. Please remind everybody that I smile with ease. Not too long ago. So honey, don't let go. What you know of me. I am dressed to kill. And my old skin, and my old skin. Save me from the same primordial sin that's deep within. Every time them hungry waves come dancing in the sand, please remind this broken shell it used to be a man. Not too long ago. So honey, don't let go of what you know me. Take heed of the ocean and the sand of the storm, and whisper
de Maud sur les événements ou les luttes du territoire. Bonjour Maud.
Bonjour Nadine et bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Désormais, chaque mois, tu tiens à nous rappeler si nous avons eu des nouvelles de la décision judiciaire qui concerne l'arrêté préfectoral de protection du Mont-Vanille contre l'exploitation d'une carrière.
Eh bien oui, Nadine. Le préfet de la Drôme a refusé l'autorisation de l'implantation d'une carrière sur le Mont-Vanille en février 2021 et la justice ne s'est toujours pas prononcée plus de 3 ans et demi après, alors que le carrier a attaqué l'arrêté préfectoral.
Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler d'événements locaux liés aux luttes écologiques et sociales. Par quoi commences-tu ?
Alors, c'est pour demain, jeudi 24 octobre, à partir de 18h30. Notre équipe Belle Avanie est particulièrement concernée puisqu'il y aura une projection du film de Michael Damperon, « Des cailloux dans les chaussures », qui relate l'histoire de la lutte citoyenne contre l'ouverture de la carrière sur le Mont-Vanille. Et c'est cette lutte qui est à l'origine de notre association, donc Protégeons le Mont-Vanille, Royan-Vercors.
Oui, cela se situe à la salle des fêtes de Cognat-les-Gorges, c'est ça ?
Oui, tout à fait, Nadine. C'est le collectif La Montagne Gronde qui l'organise en partenariat avec l'association Terreaux Locaux. Et il s'agit d'une soirée débat-rencontre. Et donc après la projection du film « Des cailloux dans la chaussure », un débat s'ensuivra en présence du réalisateur Michael Damperon et de membres du collectif « Protégeons le Mont-Vanille ». L'entrée est à prix libre, des boissons et sandwichs seront à disposition et tous nos remerciements au maire de Cognat qui a mis gracieusement la salle des fêtes à disposition pour ce ciné-débat.
Alors Maud, rappelle-nous ce qu'est le collectif La Montagne Gronde.
Il s'agit du collectif qui s'est créé suite à l'éboulement de la montagne près du village de la Rivière. Je rappelle quelques chiffres. 1 million de mètres cubes écroulés sur la route, sur 800 mètres, avec parfois 20 mètres de hauteur à certains endroits. Les experts disent qu'un 2e million de mètres cubes est prêt à rejoindre le premier.
Oui, nous voyons quelques liens entre les deux collectifs.
Ah oui, une carrière, une ICPE, c'est-à-dire une installation classée protection de l'environnement et un collectif. Pour le moment, le collectif La Montagne Gronde fait remonter des demandes de la population. Des personnes ont vu leur vie bouleversée par cet événement. La population attend encore la gratuité de l'autoroute entre Saint-Marcellin et Vorep, d'autant que la société Eiffage est à la fois partie prenante dans l'exploitation de la carrière et l'exploitation de l'autoroute. Seulement voilà, les experts n'ont pas encore donné leur avis pour savoir s'il s'agissait d'une catastrophe naturelle ou d'un accident dû à l'exploitation de la carrière, même si tout un chacun a une sérieuse idée dessus.
Et quelle idée ?
Eh bien, que sans l'exploitation, la montagne ne se serait pas écroulée et que les intempéries ont ajouté un petit poids à la catastrophe. Comme j'en ai parlé le mois dernier, je rappelle à nos auditeurs qu'il y a eu en 2019 un incident majeur qui est passé inaperçu aux yeux et aux oreilles de la population. Donc la préfecture avait alors publié un arrêté préfectoral rectificatif, mais l'exploitation de la montagne n'a pas été quant à elle arrêtée. Et pourtant, dans le rapport d'incident, on peut lire que l'exploitant n'a pas respecté la procédure lors de l'éboulement d'alors et qui avait rempli la zone de sécurité de pierres tombées de la montagne et qui ne pouvait plus faire son office de piège à bloc. Donc, on peut y voir déjà l'ébauche de l'accident majeur survenu le 25 juillet 2024. Donc l'absence d'information, le manque de conscience des dangers, tant de la part des autorités que de la part de l'exploitant, sont déjà des motifs d'indignation et l'indignation est le moteur de nombreuses luttes. Et c'est le sujet du documentaire de Michael Damperon, avec ce petit plus qui montre un collectif de citoyens, pour la plupart sans arrière-plan militant, qui va obtenir des autorités ce qu'il réclamait.
Oui, comme quoi la mobilisation citoyenne peut être efficace de nos jours. Alors, à vos agendas et rendez-vous donc le 24 octobre à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Cognat-les-Gorges pour un ciné-débat autour du documentaire « Des cailloux dans la chaussure ». Maud, tu voulais nous ajouter une petite information ?
Oui, depuis plus d'un an, la situation de la Palestine et des Palestiniens est dramatique, bien que peu traitée dans les médias mainstream, au regard de leur injustice vis-à-vis du droit international. Pourtant, des collectifs d'habitants continuent de manifester dans des villes proches de chez nous, comme Grenoble, Cray, ou au plus près du Royan, Romans-sur-Isère. Et ainsi, à Romans, rendez-vous tous les vendredis soirs de 17h30 à 18h30, place Ernest. Ernest Gailly.
Merci Maud. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur le site de notre association Protégeons le Mont-Vanille Royan Vercors à l'adresse pourvanille.fr. Et si vous désirez que votre actualité soit évoquée, n'hésitez pas à nous contacter sur ensemble@pourvanille.fr. Cette émission arrive à sa fin. Elle vous a été présentée par Séverine, Maud, Pierrick et moi-même Nadine. Alain était en régie et nous a proposé deux titres musicaux. Dans un instant, nous terminerons cette émission en musique en compagnie d'Anna Calvi avec son titre Suzanne and I. C'est une musicienne anglaise qui est auteure, compositrice, interprète. Voilà, c'est fini. Nous vous remercions vivement d'avoir été à notre écoute et vous donnons rendez-vous le mercredi 13 novembre prochain pour de nouvelles aventures. Ciao !